Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vitamine C.
Vitamine C, autour de Lyon, Anaïs Sors.
Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme tous les week-ends dans ce magazine Vitamine C. Je vous accompagne dans le prochain quart d'heure avec un titre autobiographique de Stars Godim qui arrive, une nouveauté musicale chrétienne. Ça s'appelle Discover God. Ce sera après les idées de sortie chrétienne dans l'agenda des sorties par Paul Dogy. Et avant ça, direction Vernaison pour tout un programme de festivités avec notamment un marathon de la Bible. Place à mes invités pour tout comprendre.
Vitamine C, RCF.
L'église de Vernaison a fait l'objet d'une rénovation importante pour ses toitures et ses peintures intérieures notamment. Fermée de septembre à avril, elle a rouvert pour la veillée pascale, mais la communauté paroissiale a souhaité voir plus grand en proposant des festivités autour du week-end de la fête Dieu. C'est le week-end prochain, les 21 et 22 juin, pour marquer la réouverture. Sandrine Antoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la paroisse et vous habitez par ailleurs Vernaison et vous êtes accompagné de Philippe Hirschauer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du relais de proximité, vous êtes sur la paroisse de Charlie. L'église a donc fêté ses 150 ans en 2019. Elle a subi, on l'a dit, une profonde rénovation intérieure. Quelle a été l'ampleur des travaux ?
Donc une grosse rénovation au niveau donc de la toiture de l'église. Il y a eu également un remaniement du chœur avec donc une diminution d'une marche pour faciliter les déplacements au niveau de l'autel et de l'ambon par exemple.
Comment vous avez retrouvé votre église une fois que tous ces travaux étaient finis ?
Magnifique.
Avec émotion. Lors de la veillée pascale, il y avait non seulement cette entrée des ténèbres vers la lumière, mais aussi tout le monde découvrait ces nouvelles couleurs intérieures de l'église.
Il y a eu du monde. Pour cette réouverture, gros projet, donc avec tout plein de festivités le week-end prochain. Et ça commence dès mercredi avec un marathon de la parole. Vous avez souhaité proclamer la parole de Dieu nuit et jour dans l'église à partir de mercredi et jusqu'à samedi prochain, jusqu'au 21 juin. Quelle est la portée de cette proclamation continue ?
Proclamer la parole, c'est en même temps que l'ouverture de l'église, c'est pas simplement une église, bâtiment qui réouvre, mais c'est aussi la maison spirituelle qui retrouve sa voix. En s'appuyant sur Saint Jean et le prologue de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, le Verbe. Et donc on déclare la parole de bout en bout. C'est rarement fait en France. J'ai fait une petite étude, une petite recherche et finalement il y a quelques lieux qui...
Bordeaux notamment
font ça. Pourquoi ? C'est de donner un sens spirituel en même temps que l'ouverture physique, encore une fois.
Par rapport à la Bible, où on a potentiellement ce côté, un livre posé sur une étagère, elle est proclamée, elle est vivante et elle est agissante. Donc c'était aussi ça, ce message-là qu'on voulait faire passer avec ce marathon.
Et concrètement, comment ça se met en place ? Puisque proclamer la Bible du mercredi jusqu'au samedi, ça implique du monde, nuit et jour. Comment ça s'organise ?
On a mis en place un système de réservation de créneaux. Donc, ce sont des créneaux de 30 minutes qu'on peut réserver sans limite. L'objectif, c'est d'envoyer un mail à l'adresse mail marathondelaparole@gmail.com. Et en fait, en envoyant un mail à cette adresse-là, vous allez avoir un mail automatique de réponse qui va vous emmener vers un lien Framadate qui permettra la réservation. Donc, c'est quelque chose de très simple. Et puis, si on n'arrive pas à se réserver, on envoie un petit mail sur l'adresse du marathon et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous trouver un créneau.
Donc, chacun est libre de pouvoir participer. Et comment ça se passe ? On lit un texte désigné ? Est-ce qu'on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse ? Comment ça se passe ?
Oui, en effet. L'objectif, c'est ça. C'est de lire la Bible dans l'ordre, de la Genèse à l'Apocalypse, dans l'ordre, et que chaque lecteur se sente le bienvenu et vienne proclamer la parole dans la nouvelle église de Vernaison.
Et donc, il faut 4 jours pour proclamer comme ça la parole ?
Oui, alors on avait fait des petites recherches sur Internet parce qu'on n'était quand même pas très au fait du temps qu'il fallait pour lire la Bible. Et donc, c'était noté autour de 72 heures. Donc, on s'est pris un petit peu de marge pour pouvoir être tranquille et qu'on puisse profiter de ce marathon au sein de l'église de Vernaison.
Alors vous êtes grandement invité à vous inscrire, vous êtes grandement invité à écouter la parole.
Oui, puisque l'idée, j'imagine que c'est pas
entendu aussi.
Voilà, ça c'est pas juste de la proclamer dans une église vide.
Il y a des démarches très belles. Les écoles catholiques et chrétiennes de la paroisse, Vernaison, Charlie, se sont mobilisées et c'est toute une classe ou des classes qui vont venir ensemble proclamer la parole. Je trouve ça merveilleux et je trouve ça un très beau symbole de voir ces jeunes qui se mobilisent aussi pour transmettre la voix du Seigneur.
On avait prévu des créneaux pour des lecteurs, mais après, toute personne qui a envie de venir écouter, de s'imprégner de la parole, eh bien, est la bienvenue et venir écouter la parole lue à haute voix, à Lambon, dans cette église pendant ces 3 jours.
Même si on n'a pas l'habitude, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas lu tous ces textes-là, simplement venir, se laisser bercer par ces mots, cette parole qui nous a été transmise de génération en génération, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, après l'arrivée du Christ.
Et vous le disiez, effectivement, la Bible n'est pas un livre classique à lire. Qu'est-ce qui motive aussi celles et ceux qui participent à venir proclamer ? Est-ce que vous le savez un peu ? Est-ce que certains vous ont déjà expliqué, dit un petit peu pourquoi ils avaient envie de venir proclamer cette Bible ?
Non, moi j'ai juste eu des retours sur « Ah, on n'aurait pas pensé, mais c'est génial ». Mais c'est vrai que sur la motivation, je pense qu'elle est très personnelle, très intime. Et finalement, c'est vrai qu'il n'est pas, pour l'instant en tout cas, elle ne nous a pas été partagée.
Qu'est-ce qui vous a inspiré ? À quel moment vous vous êtes dit « On va proclamer la Bible pendant 4 jours dans cette église ». Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ?
Au départ, c'est une idée du père Vincent Gérard, donc qui est le curé de la paroisse Sainte-Blandine du Fleuve, qui avait émis un peu l'idée comme ça, en brainstormant, on se donnait un peu des idées de ce qu'on allait faire. Et puis d'un coup, on s'est dit, mais oui. Enfin, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Enfin, voilà, il y a des nouvelles peintures. L'église a été remaniée. Il faut qu'on remette la parole au centre de l'église bâtiment et qu'elle devienne plus que église bâtiment, mais le côté maison spirituelle, maison de Dieu. Et donc là, on s'est dit, quoi de mieux que de proclamer cette parole haut et fort pendant ces 3 jours.
Et donc, on arrive le samedi avec la fête de la musique, évidemment, où là, un concert de chant sera proposé à 20h gratuitement avec les petits chanteurs de Lyon avant la fête paroissiale du dimanche 22 juin. Donc, gros week-end de festivités pour vous.
Les petits chanteurs de Lyon seront rejoints par un autre chœur. Il y aura 100 choristes et je vous invite vraiment à venir. Ça va être pour la fête de la musique et pour la réouverture de la paroisse, de l'église. Ça va être un très, très beau moment. Ce sera suivi le dimanche, c'est le dimanche de la fête Dieu. Et donc on célébrera la messe à 10h30 dans l'église et on fera procession, la procession de la fête Dieu, jusqu'au lieu où on se rassemblera pour la fête paroissiale qui aura lieu pour le repas et pour l'après-midi. Moment convivial, moment de fête pour couronner ces 3 jours pour se nourrir de la parole d'abord, pour célébrer avec la musique et pour faire fraternité ensemble.
Qu'est-ce que ça représente pour une paroisse comme la vôtre, toutes ces festivités ? Quelle est l'importance de ces festivités pour vous ?
Sur notre paroisse, on est 4 clochers et finalement, c'est de rassembler tout le monde autour d'un événement, mais de rassembler pas seulement les paroissiens de Vernaison. En fait, l'objectif, c'est vraiment de rassembler la paroisse autour d'un événement qui est la réouverture de l'église de Vernaison de la paroisse. Mais c'est vraiment ce côté, on est tous ensemble, le côté partage et rassemblement et faire corps en fait.
On a beaucoup de chance, on est une paroisse très très vivante qui propose énormément de choses et c'est aussi une façon de fédérer tout le monde, comme l'a dit Sandrine, autour d'un événement. Je trouve que c'est assez symbolique où ça représente assez bien la paroisse. Je disais la parole, la fraternité, la fête, on retrouve tous ces aspects-là dans la vie de la paroisse au travers de tous les événements, la profondeur spirituelle, les temps d'échange, mais aussi cette capacité à accueillir. Donc encore une fois, on ne le fait pas que pour nous, on ne le fait pas que pour le symbole, on le fait vraiment pour cette ouverture, cette parole proclamée et venez l'accueillir.
Et donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez vous aussi envie de proclamer cette parole. Ça commence mercredi et ça se termine samedi. Vous pouvez aussi simplement aller écouter la parole, ça marche aussi. C'est à l'église de Vernaison. On rappelle le concert samedi, la fête paroissiale le dimanche et vous retrouvez toutes les infos sur le site évidemment de la paroisse. Sandrine Antoine, Philippe Hirschauer, merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
Vitamine C, RCF.
Et la semaine prochaine, mon invité nous emmènera du côté de Rouen. Soyez au rendez-vous. D'ici là, de la musique se prépare. Ce sera dans moins de 10 minutes une nouveauté signée Stars Go Dim, un titre autobiographique qui se prépare. Après Paul Dogy qu'on retrouve tout de suite, on ouvre nos agendas avec lui.
RCF Lyon, l'agenda des chrétiens.
Le mouvement des Focolari, présent dans notre diocèse, organise cet été du 15 au 20 juillet un rassemblement traditionnellement appelé Mariapolis à Ressin dans la Loire. C'est un temps de ressourcement, d'approfondissement spirituel, de détente et de fraternité dans un cadre de vacances. Il s'adresse à tous, familles, célibataires, enfants, jeunes, religieux et religieuses, et les non-croyants aussi, pour explorer ensemble les clés de la fraternité par des activités, des moments d'approfondissement et d'échange à la lumière de l'Évangile. Le thème de cette année sera « Solidarité, alors la paix viendra ». Voilà, pour plus d'informations et vous inscrire à ce rassemblement Mariapolis, vous allez vite sur le site mariapolis.fr. Mariapolis.fr. Et puis dans le cadre de son cycle des rencontres 2024-2025, l'Antikai nous invite à une dernière soirée autour de l'Ecclésiaste. C'est jeudi prochain, 19 juin à 18h. Au programme, lecture, commentaires et musique avec le comédien Xavier Jacquelin, Bertrand Pinson, docteur en théologie à l'UCLI et chercheur sur la Bible, littérature et culture antique, et Catherine Arnoux, musicienne en viol de gambe. L'entrée est libre sans réservation, avec participation aux frais de 5 euros souhaités. Enfin, la Maison Familiale de Lyon propose son atelier Cyclo-Show, une journée sur le thème de la puberté, en binôme mère-fille, pour parler vie affective et sexuelle avec son enfant. Deux sessions vous sont proposées, soit dimanche 22 juin, ou bien samedi 28 juin, de 10h à 16h30. Pour plus de renseignements et vous inscrire, vous allez vite sur le site familia-lyon.fr.
Et merci de votre écoute et de votre fidélité à ce magazine Vitamine C. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'invité en podcast sur rcf.fr. On va poursuivre en musique avec un titre signé Stars Godim. C'est une nouveauté. Je vous propose de s'écouter tous ensemble Discover God. Moi, je vous souhaite un excellent week-end sur les ondes de RCF Lyon. Et on se retrouve bien sûr très vite. Bye bye. excellent dimanche à tous. Merci de passer votre week-end sur RCF Lyon. Tout de suite, c'est un épisode de Tempo pour vous. Elle sera en vigueur à partir de samedi prochain, le 21 juin. La zone à trafic limité réorganise la circulation sur la presqu'île. Il ne sera plus possible de rouler en voiture et en deux roues sur une partie du second arrondissement de Lyon, sauf ayant droit. Des pentes de la Croix-Rousse au nord de la place Bellecour, en passant par le secteur de Cordeliers, seuls les riverains, les artisans et les livraisons de commerce pourront emprunter ces rues avec leurs véhicules. Une zone à trafic limité qui fait grincer des dents les commerces indépendants, inquiets pour leur avenir. Selon eux, cette piétonnisation, qui ne dit pas son nom, freinerait la venue de leurs clients éloignés de Lyon. Des études montrent pourtant les effets bénéfiques de la fin de la circulation automobile dans les centres-villes. Une révolution pour les riverains, pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants. La majorité écologiste a-t-elle donc vraiment abandonné le centre de Lyon? C'est le sujet abordé dans Tempo cette semaine.
Tempo, le podcast d'actualité sur RCF Lyon.
Une émission présentée par Grégoire Jean.
Bonjour Grégoire.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous.
Un mot de définition, d'abord la ZTL pour zone à trafic limité, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est l'un des grands projets communs à la ville de Lyon et à la métropole écologiste. Un projet intitulé Presqu'île à vivre, objectif, favoriser les mobilités douces et limiter l'accès aux véhicules motorisés dans certaines zones du centre-ville. Les Verts souhaitent ainsi rendre l'espace urbain plus agréable pour les piétons et les cyclistes, tout en maintenant des accès essentiels pour les habitants, les commerçants et les professionnels. Emeline Baume est vice-présidente de la métropole de Lyon, déléguée à l'économie.
Les aménagements d'espaces publics et de voiries utilisent un outil réglementaire qui s'appelle la zone à trafic limité. Ce qu'on souhaite, c'est que la grande presqu'île soit agréable à parcourir dans les différents modes de parcours que peuvent utiliser des populations différentes que sont les riveraines et riverains habitants-habitantes, les touristes proches ou lointains et la diversité des âges et des moments de vie quand on est un peu vieillissant, situation de handicap ou qu'on a une grosse valise parce qu'on va rendre visite à un ami ou qu'on est étudiant et qu'on se déplace en skateboard, etc. On parle de presqu'île à vivre à la métropole de Lyon et la ZTL, c'est un outil.
Un outil au service du projet Presqu'île à vivre qui ne fait pas que des heureux, notamment chez les commerçants indépendants.
Je m'appelle Mathieu Bruel, je suis commerçant en presqu'île de Lyon. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille rue Émile Zola, place Bellecour.
Une rue Émile Zola inaugurée en décembre 2024 après 14 mois de travaux. Aujourd'hui, les arbres et les pavés ont remplacé les places de stationnement dans cette rue. Et si Mathieu Bruel admet bien volontiers que c'est plus calme aujourd'hui qu'auparavant, eh bien ça l'inquiète pour autant.
Aujourd'hui, en presqu'île, on a moins 30% de fréquentation. Donc forcément, le chiffre d'affaires qui s'en découle est forcément impacté. Donc oui, effectivement, on a tous peur, nous, les commerçants indépendants, parce que la ville a de plus en plus de commerces vides. En face de chez nous, rue Émile Zola, il y a une très grande cellule qui est vide depuis bientôt un an. Auparavant, il n'y avait aucun commerce qui restait vide. Dans la rue Émile Zola, on est quand même en plein cœur de la presqu'île. On est le carré d'or. Aujourd'hui, les parkings existants sont saturés. Samedi après-midi, moi, j'ai des clientes qui venaient de Haute-Loire, d'un petit village qui s'appelle Tence. À Tence, on ne peut pas venir à Lyon en bus ou en métro. Donc, cette ZTL, c'est aussi une exclusion, puisqu'il y a des gens qui vivent dans des territoires ruraux, qui n'ont pas la possibilité de prendre des trains et qui, lorsqu'ils arrivent dans Lyon, ne peuvent pas faire autrement que d'arriver jusqu'au centre-ville de Lyon pour se stationner dans un parking. Donc, qu'on arrête de faire de l'amateurisme, comme par exemple, typiquement dans la ZTL, la rue Grenette. On a décidé d'une façon unilatérale de la fermer. Ça va être une autoroute à bus, ça va être compliqué de traverser. Et tout ça, ça ne pose aucun problème à personne.
Je me suis donc moi-même rendu rue Grenette pour comprendre à quoi ressemblait cette fameuse autoroute à bus. 72 bus par heure, 1500 par jour. Mais pour l'instant, sur place, ce sont surtout les travaux qui rythment les journées des commerçants et des riverains.
Bonjour, je suis Françoise Véraud, je dirige avec mon associé Jean-Michel Barbier, nous dirigeons la charcuterie Bonnard, et ce depuis plus de 40 ans.
Aujourd'hui, elle s'inquiète pour la pérennité de sa charcuterie.
J'ai 14 personnes dans l'entreprise et je peux vous dire que là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on va vraiment rester là ou partir parce que ça devient insupportable. On vient de baisser de plus de 70% la fréquentation de clients, parce que tous mes clients viennent de l'Ouest lyonnais, de l'Est lyonnais. On a des clients sur Lyon, effectivement, mais ce n'est pas la principale activité chez nous. Les principaux viennent de l'extérieur et ne descendent plus en famille. Donc si nous, on ne travaille pas, d'autres commerces ne travaillent pas non plus, parce que les gens venaient aller consommer, aller dans les bars, aller dans les restaurants. Maintenant, vous ne pouvez plus, il n'y a plus de place dans les stationnements. Ils ont fermé un parking en même temps que tous les travaux. Et après, qu'ils ne nous disent pas, ben non, il y a de la place dans tous les parkings, quoi. Alors, vous venez à 6h du matin, il y en a. Mais à 10h du matin, il n'y en a plus.
Françoise Véraud assure être en perte sèche depuis le mois de janvier, entre 20 et 50% de moins de chiffre d'affaires par jour.
Là, ce qui se passe, c'est que pour la quatrième fois consécutive depuis le mois de décembre, ils nous ont réouvert une tranchée, mais énorme, où un homme peut passer jusqu'à la poitrine, si vous voulez. Voilà, et on a même, vous voyez, donc, les scooters qui passent sur le trottoir, génial. Une tranchée énorme qui est de début jusqu'à la fin de la rue. Ils ont mis les bus, les vélos, tout était tracé. Et là, ils recommencent à nouveau. Donc, j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on a vraiment de l'argent à gaspiller comme ça?
Dans les commerces de la rue Grenette, l'inquiétude est également présente chez les consommateurs, chez les clients réguliers.
Les gens qui travaillent, qui avaient l'habitude de venir ici à Lyon en voiture, comment ils font? Nous, on connaît une dame qui tient un pressing, elle a perdu la moitié de son chiffre d'affaires de gens qui venaient de l'extérieur.
Dominique Reverdio habite en plein cœur de la Presqu'île, elle qui est retraitée et âgée aujourd'hui de 77 ans.
Les commerçants, je les comprends, hein.
Ça vous inquiète que demain, par exemple, votre charcuterie dans laquelle vous êtes venu aujourd'hui, elle soit fermée?
Oh ben et comment, oui. Ben bien sûr, mais c'est évident. Parce que plus on vieillit, plus on a besoin de son commerce de proximité. Ben enfin, je sais pas, c'est... Puis Lyon, c'est quand même une ville où on mange, où on aime acheter de bonnes choses. C'est pas au supermarché qu'on trouvera les bons produits, hein. Je me souviens, moi, je l'ai connu, la rue de l'Arrêt, à une belle époque, avec des belles brasseries, avec des beaux magasins. C'est plus vraiment pareil, hein. On revient jamais en arrière. Donc, je sais pas ce que ça va devenir, je sais pas.
Je croise également un autre client qui semble être du même avis.
Voir une uniformisation avec des enseignes internationales et la disparition des petits commerces. Ça, c'est très inquiétant.
Merci beaucoup.
Merci à vous, madame.
Bonne journée.
La guerre des chiffres désormais. D'un côté, la métropole de Lyon parle d'une augmentation de la fréquentation des stations de métro de la Presqu'île entre 2019 et 2024, plus 7% en moyenne. Et de l'autre, les collectifs de commerçants, eux, déplorent une baisse de 30% de leur commerce en centre-ville.
Et Grégoire, alors dans tout ça, qui a raison?
Eh bien, difficile de savoir, Anaïs, puisque hausse de la fréquentation des rues du centre-ville ne veut pas forcément dire hausse de la fréquentation des commerces et de leurs chiffres d'affaires. Sébastien Bourdin, professeur de géographie économique à l'EM Normandie Business School, travaille sur la mise en place des ZTL dans plusieurs villes européennes. Et s'il observe effectivement un changement d'habitude des consommateurs, il se veut aussi rassurant.
La transition brutale d'un modèle économique local qui repose sur une clientèle motorisée de proximité, notamment pour les artisans, les commerces de bouche ou les petits services, on peut imaginer, et c'est normal et légitime, qu'ils redoutent cette baisse de la fréquentation. Peut-être aussi des difficultés d'approvisionnement, voire la perte d'une partie de leur clientèle fidèle, ils peuvent plus se garer facilement. Mais ces craintes doivent être occultées par trois réalités. Un, les effets négatifs sont souvent temporaires. On observe une adaptation rapide des flux de clientèle et surtout s'il y a des mesures d'accompagnement de ces flux, c'est-à-dire une signalétique, des dispositifs pour améliorer la livraison, l'accessibilité. Donc c'est important de dire aussi qu'il faut que ça soit accompagné. Deux, les commerces y bénéficient à moyen terme de l'attractivité renforcée des rues apaisées. Si les rues sont apaisées, eh ben forcément, il y aura un regain de piétons, plus de familles, plus de touristes, et ils sont encouragés aussi à flâner, donc à passer plus de temps dans la rue. S'ils passent plus de temps dans la rue, ça favorise la consommation. Et enfin, trois, l'essentiel, c'est d'anticiper et de co-construire. C'est-à-dire que là où la piétonisation a été co-construite avec les commerçants, des zones de livraison bien pensées, des horaires adaptés, un accompagnement individualisé et une accessibilité qui est bien meilleure qu'avant, et ben forcément, les effets sont positifs et maximisés.
La galère des commerçants ne serait donc qu'une question de temps. Encore faut-il en avoir lorsque l'on tient une boutique. Le Covid, la dette du prêt garanti par l'État et le pouvoir d'achat des ménages fragilisent les trésoreries.
Et Grégoire, autre crainte suscitée par cette ZTL, la muséification de la ville.
Ah oui, pour certains, derrière les bonnes intentions de la zone à trafic limité se dessine un autre risque, celui de transformer la presqu'île en décor de carte postale, une zone certes propre, apaisée, mais où il devient difficile de travailler, de livrer ou même de vivre sans contrainte. Une sorte, vous l'avez dit, de ville-musée polie mais figée. C'est d'ailleurs le cas dans plusieurs centres-villes européens qui connaissent ce phénomène. Emeline Baum, vice-présidente de la métropole, se veut rassurante.
Il y a des communes, il y a des centres-bourgs, il y a des centres-villages, il y a des endroits où effectivement le revenu médian est extrêmement bas. Ce n'est pas le cas de la métropole de Lyon. Je fais le pari qu'ensemble, collectivement, dans les rôles et dans les missions qu'on a, on puisse faire comprendre aux touristes et aux habitants et aux habitantes que l'économie de proximité ici, c'est pas l'économie de proximité de Strasbourg, Milan, Bologne ou je ne sais où. Pourquoi ? Parce qu'on a des créatrices, parce qu'on a des créateurs, parce qu'on a des réparateurs, parce qu'on a des restaurateurs, parce qu'on a des hôteliers, parce qu'on a des hommes et des femmes entrepreneurs qui proposent des expériences singulières qu'on ne peut pas vivre sur leur canapé. Ceci étant dit, pour l'emploi local, c'est mieux d'aller à la rencontre des artisans et des commerçants. Donc j'émets l'hypothèse qu'au regard quand même du revenu médian métropolitain, on va pas vers une muséification de la métropole de Lyon. Le musée, on n'y est pas. Parce qu'un musée, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'habitants et habitantes en presqu'île. Il y en a toujours. Il faut juste s'adapter. Il faut adapter l'espace public.
Un musée, ça veut dire qu'il se balade, mais qu'il ne consomme plus.
Il restera des riveraines et des riverains dont je fais partie, qui ont des besoins du quotidien, alimentaires, vestimentaires, de réparation. Donc non, charge à nous, avec les commerçants et artisans, de trouver les bons moyens de repositionner dans l'inconscient collectif cette offre singulière.
Une offre commerciale singulière, bien lyonnaise. Les expériences de ZTL dans d'autres villes se veulent toutefois encourageantes si les espaces piétons et la signalisation sont au rendez-vous. C'est ce que pense Sébastien Bourdin.
Quand je regarde les études qui ont été réalisées à Madrid, à Groningen et dans d'autres villes, les chiffres montrent que hausse de fréquentation piétonne augmente la proportion des ventes. Après, effectivement, il faut aussi designer les espaces de promenade de façon à ce que ça puisse aussi inciter à l'achat, etc. Tout ça, ça doit être vraiment, vraiment bien pensé. Encore une fois, l'idée, c'est que il y a des chiffres dans d'autres villes qui montrent que ça marche. Après, il faut quand même éviter de sortir dans cette idée de ville-musée où on aurait des vitrines touristiques, où ça se transformerait pas en vente. Mais l'expérience d'autres villes européennes montre que ça se transforme la plupart du temps en vente.
Dernier danger, et pas des moindres, qui guette aussi la piétonnisation de l'espace urbain, la hausse du foncier commercial et donc la fin des petits commerces indépendants au profit d'une uniformisation des enseignes, les mêmes que l'on retrouve dans les grandes villes européennes et mondiales. Une menace à ne surtout pas sous-estimer, selon Sébastien Bourdin.
Si on a de la piétonnisation, etc., ça va faire augmenter la valeur commerciale, la valeur du foncier. Et donc, y a certains commerçants qui vont pouvoir résister à cette croissance de la valeur du foncier. S'ils sont propriétaires, c'est absorbé. S'ils ne le sont pas, ça peut poser problème. Et donc, le risque, c'est effectivement d'avoir une montée en puissance de commerces qui ont les reins solides pour pouvoir se payer ces locaux commerciaux où le foncier pourrait être plus élevé parce que piétonnisation, etc. On peut avoir des commerces qui peuvent être fragilisés. Donc là aussi, ça nécessite un accompagnement de la collectivité locale de façon à ce que ces commerces-là, ils restent, et ils restent toujours les vitrines de l'identité locale, du commerce de bouche, de proximité, qui est malgré tout indispensable. Et donc, monitorer en quelque sorte le centre-ville, de sorte à ce qu'il ne soit pas entièrement fait de boutiques connues, de grandes marques, au détriment de nos artisans et commerçants indépendants.
Un accompagnement essentiel de la collectivité dont Emeline Baum, vice-présidente de la métropole, a bien conscience.
Charge à nous, en fait, d'indiquer à ces propriétaires que la diversité commerciale, elle est tout autant importante pour eux que pour nous. Donc on a mis en place en fait une scène de dialogue avec les acteurs commercialisateurs et propriétaires pour leur exprimer en fait notre vision de la grande presqu'île, donc qui va depuis le bas des pentes jusqu'à Perrache, refait, même jusqu'à Confluence, en disant, bah voilà, il faut de la place pour tout le monde, il faut de la place pour les services publics, pour la culture, pour les indépendants, pour les enseignes de luxe, pour le mass market, etc.
Voilà, du côté des pouvoirs publics, on assume, je cite, que tout ne sera pas parfait. Cependant, une clause de revoyure est prévue en décembre 2025. Objectif de cette clause, dresser un constat 6 mois après la mise en place du dispositif. En attendant, ce que révèle cette zone à trafic limité, c'est un dilemme urbain profond. Oui, nous voulons une ville apaisée, plus calme, plus propre, plus sûre, mais à quel prix ? Une ville, c'est aussi un lieu réellement habité, traversé, vécu par tous et pour tous. La réussite de cette ZTL dépendra donc de ce fragile équilibre, Anaïs.
Merci Grégoire pour cet éclairage sur la ZTL et ses enjeux. Cet épisode de Tempo est à réécouter sur rcf.fr/Lyon et sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode inédit de Tempo sur RCF Lyon.
Et tout de suite, eh bien oui, sur RCF, retrouvez votre magazine d'actualité économique, Un Rhône Éco. C'est tout de suite.
Un Rhône Éco, une émission présentée par Isabelle Berger.
Seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller. Ces mots du poète Thomas Timms Eliot expriment sans doute l'état d'esprit des dirigeants des entreprises du groupe Metalp. 6 sociétés unies en un seul groupe pour intervenir dans les secteurs du bâtiment, de la métallurgie et de l'environnement. Une vision commune, bâtir avec passion et responsabilité. Nous découvrons aujourd'hui le groupe Metalp avec sa présidente Sylvie Pellegrini. Bonjour Sylvie Pellegrini.
Bonjour à vous.
Merci de nous accorder cet entretien. Implanté à Port dans le Haut-Bugey, le groupe Metalp a fêté ses 20 ans en 2024, mais il a une histoire plus ancienne puisque ses origines remontent à 1968 avec la création de l'entreprise Carminati Pellegrini. Quelles sont les grandes lignes de l'histoire de ce groupe, Sylvie Pellegrini ?
Ce groupe est né en 68. Avec la création d'une métallerie artisanale dans un petit cabanon à Condamine. En 74, ils ont déménagé sur Port puisqu'il y a eu une croissance. En 89, nous avons eu la création de Port Alu PVC. Et puis en 2004, nous avons séparé le groupe. Donc le groupe est devenu et a été scindé en deux avec la famille Carminati d'un côté, la famille Pellegrini de l'autre. Et puis, donc le groupe Metalp, c'est notre partie, donc le groupe Metalp aujourd'hui. Et là, nous avons continué, nous avons gardé la société la plus ancienne, donc Port Alu Charpente Métallique et Menuiserie Alu, qui est aujourd'hui Capessi. Ensuite, nous avons créé, en 2007, nous avons racheté une société qui s'appelle Feugier Environnement, qui est vers Solbrenna, qui conçoit des barrières anti-inondation, de la rétention et du matériel de levage mécanique ou électrique à crémaillère pour des levages hydrauliques. En 2008, nous avons créé ATEC Étanchéité avec un salarié de Port Alu Charpente qui a voulu créer sa société. Donc, c'est une société de couverture bardage étanchéité qui était située à Solbrenna. En 2014, à Liège Tôlerie qui fait du façonnage de tôle. En 2017, Cap Métal. Donc, qui fait de la structure métallique, mais plus complexe que celle de Capessi, et qui est située à Oullins. Et en 2019, donc c'était les 50 ans de Port Alu. Et là, on a changé de nom, c'était Capessi. Ensuite, nous avons, en 2022, nous avons créé Aerolux. Ça, c'est une création. C'est une personne qui est venue nous rejoindre, qui voulait se mettre à son compte, qui avait besoin d'une structure un peu plus solide. Donc, lui, il fait du désenfumage. Et puis, la toute dernière, là, qui est ouverte en avril 2025, c'est un salarié qui a voulu se mettre à son compte. Elle s'appelle Agiscan et qui fait du scan 3D.
Donc, en fait, il y a une entreprise au départ et puis qui est devenue, si je comprends bien, presque pépinière d'entreprise.
Voilà, c'est ça. En fait, Souvent, les salariés ont, soit c'est eux qui ont envie de créer une société, donc on parle du projet, on monte des business plans et puis on les aide. Ou alors, par exemple, comme Cap Metal, Monsieur Emmanuel Chambreuil, en fait, il était venu pour un recrutement technico-commercial charpente métallique. Et puis dans la conversation, il nous a dit qu'il aurait aimé se mettre à son compte, mais il avait peur et il n'en avait pas les moyens financiers. Donc on a dit, si tu veux, on peut t'aider et nous, on s'associe avec toi et tu montes ton entreprise. Donc bien souvent, c'est comme ça. Aérolux, c'est fait aussi comme ça. Il y a juste Feugier Environnement qui était une société qu'on a rachetée. Mais c'est pas le cœur, puis c'est pas notre envie de racheter des sociétés qui sont déjà en exploitation. Pour nous, vraiment, ce qui nous plaît le plus, c'est de créer. De créer parce que dans la société Poralu, dès le départ, le leitmotiv est notre ADN, c'est d'avoir toujours un pas d'avance sur les autres. C'est de toujours aller de l'avant, de jamais se contenter de ce qu'on a et de se dire qu'est-ce que demain on va faire ou qu'est-ce qu'on peut faire.
Pour vous, c'est plus dans votre intérêt, enfin dans l'intérêt de l'entreprise, de soutenir des nouvelles entreprises plutôt que de les voir concurrentes.
Aujourd'hui, d'aider, c'est un petit peu le but de Metal. Donc, à Metal, on a créé des services support, la RH, tout ce qui est social, la comptabilité, l'informatique, la communication, le QSE et juriste. Et donc, avec ce noyau, on peut aider. Souvent, c'est des techniciens. C'est des personnes qui sont très techniques, qui ont d'énormes capacités, mais qui n'ont pas envie de s'embêter avec tous ces services support. Et donc, on est là et puis on les aide. On leur dit, OK, on veut bien s'associer avec vous et on part en association. Alors, il faut savoir qu'en association, Metalp garde 65% du capital et on laisse 35% à la personne. Après, il faut aussi se dire qu'on n'ira pas faire une pâtisserie.
C'est voilà, aussi votre cœur de métier,
notre cœur de métier
reste
c'est quand même la
métallurgie.
Alors, c'est pas la métallurgie, c'est la construction, c'est le bâtiment. On essaye de voir le rapprochement qui peut se faire toujours avec Capessi, donc la société d'origine. Donc aujourd'hui, Capessi fait de la charpente métallique et de la menuiserie aluminium. On se dit quel rapport, puisque c'est la plus grosse aussi du groupe. Quel rapport pourra avoir cette société avec les autres sociétés? Donc, Aérolux fait du désenfumage. Donc, automatiquement, quand on fait du bâtiment industriel, elle peut proposer aussi ses services. Même Feugier Environnement, où on se dit, mais elle fait des barrières anti-inondation, elle fait aussi des barrières de rétention qui, aujourd'hui, dans les nouveaux bâtiments, vont devenir indispensables, vont être obligatoires dans les nouvelles constructions. Et donc, Feugier Environnement aussi pourra participer, aussi bien en sécurité. C'est même Aérolux qui ira acheter les barrières à Feugier pour proposer un pack complet et garantir la sécurité de ces bâtiments. Charpente métallique, aluminium, eux, d'office, ils travaillent presque toujours ensemble. Alors, je dis presque parce que rien n'empêche à une société d'aller travailler en individuel sur des chantiers à part. Parce que souvent, on tombe aussi sur des donneurs d'ordre qui nous disent, si on prend la charpente Capessi, par exemple, au groupe Metalp, on va pas reprendre un autre corps de métier au groupe Metal. Il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas prendre. Donc, c'est normal, ils font travailler tout le monde. Ça, on le comprend aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on n'interdit personne d'aller faire un chantier tout seul.
Pour les auditeurs qui sont peut-être un peu loin des milieux d'entreprise, le groupe Metal, c'est un peu comme une entreprise support aux autres.
Voilà, c'est ça. Groupe Metalp, les personnes qui travaillent chez Metalp ne travaillent pas dans le bâtiment. C'est des personnes administratives essentiellement, c'est des DAF, c'est le DAF, c'est...
Donc directeur administratif financier.
Voilà, c'est tout ce qui est administratif, c'est toutes des fonctions support. Et par exemple, un service communication, une petite entreprise comme Aérolux, comme Agiscan, comme toutes nos petites entreprises, n'aurait pas les moyens de se l'offrir. Nous, aujourd'hui... on mutualise tous ces services qui permettent. Alors, bien sûr, ces entreprises, comme nous, on travaille pour eux, ont des redevances à Metalp.
Un Rhône Éco, le magazine économique du Rhône et de l'Ain.
Vous, Sylvie Pellegrini, donc vous êtes présidente de Metalp. Et vous êtes par ailleurs dans l'une de ces entreprises ?
Moi, je suis en fait directrice générale de toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, je suis nommée directrice générale et puis je suis présidente donc du groupe Métalp. Donc moi, je travaille essentiellement au groupe Métalp en collaboration avec les directeurs de chaque société. Avec les directeurs, donc j'ai monté un CODIR, hein, puisque moi, je suis pour le partage de la responsabilité. Je suis pour une direction participative. Donc aujourd'hui, on a créé un CODIR avec tous les directeurs et puis on parle de leur société, mais on parle aussi de la gestion du groupe Métalp. Et là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on ne se sent pas seul. Souvent, le dirigeant est seul. Et moi, il faut bien vous dire que je suis pas seule. Moi, quand mon frère, au début, je dirigeais avec mon frère. Hein, donc quand mon frère est parti, je me suis retrouvée seule. Mais avant de reprendre cette direction, je suis allée voir tous les directeurs des sociétés pour leur demander s'ils étaient OK de partir avec moi. Parce que s'ils n'étaient pas OK à me suivre, ça allait être très compliqué. Et en plus, moi, je suis une femme. Donc, quand on sait que les femmes, elles rament un peu plus que les hommes pour pouvoir... Mais ils ont été super sympas. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un certain noyau entre nous où on est vraiment... on est attachés, on s'appelle souvent. Moi, je sais qu'ils m'appellent s'ils ont un coup. Alors, ils vont pas m'appeler pour une chose technique, ça, c'est sûr, parce que je leur ai dit franchement que j'allais pas pouvoir leur apporter grand-chose. Mais je sais quand ils ont un petit coup de mou, ou c'est compliqué parce que les affaires sont compliquées, et ben on s'appelle, on discute. Et là, je trouve mon plus par rapport à eux. Et c'est une chose peut-être que j'apporte. Par rapport à un homme, j'apporte ce côté plus sentiment, plus intuition, plus de... Puis je suis plus à leur écoute, je pense qu'un homme le saurait.
Oui, c'était une des questions que je voulais vous poser, Sylvie Pellegrini. Donc, femme à la tête d'un groupe de 6 entreprises, vous le disiez vous-même, c'est quand même plus difficile d'être femme chef d'entreprise par rapport au regard des autres.
Alors, par rapport au regard, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que moi, je trouve que en tant que femme, on est obligé de prouver qu'on est capable. Autant un homme, il n'a pas besoin de prouver, et lui, c'est inné. Moi, j'ai un style de management très humain et très participatif, donc je pense que je suis quand même... Je privilégie le leadership ouvert, basé sur la confiance et le dialogue, la collaboration. Je n'instaure pas une hiérarchie écrasante. Et donc, aujourd'hui, je laisse toujours ma porte ouverte et tout le monde peut venir me parler, aussi bien
au sens propre de votre bureau.
Ma porte est toujours ouverte dans le bureau, ou si elle est fermée, c'est vraiment que, voilà, c'est que je suis avec quelqu'un. Mais normalement, elle est toujours ouverte et tout collaborateur sait qu'il peut monter dans mon bureau pour parler avec moi ou pour discuter avec moi. J'ai un côté beaucoup plus libre à ce niveau-là parce que moi, j'ai pas la partie technique, hein. C'est ce que je peux apporter. J'ai une communication très facile. Ça, je pense que c'est plutôt féminin. Donc, on peut apporter ça. J'ai une légitimité naturelle par le fait que je suis la fille de ceux qui ont créé
des fondateurs.
La société, hein, du fondateur de la société. Et puis, pour moi, j'ai un positionnement clair et très respectueux de mes salariés. Ça, pour moi, c'est très, très important. Le respect, dès qu'il y a un manque de respect, je convoque ou je... Voilà, on en parle. Parce que pour moi, c'est vraiment pas concevable. Ça, c'est la base de notre... du comportement dans la société. Le savoir-être est très, très important chez nous.
Oui, quand on parle de recrutement aujourd'hui, beaucoup d'entreprises d'ailleurs mettent en avant le savoir-être plutôt que le savoir faire ou le savoir technique.
Un savoir-être, on ne peut pas le changer. Alors après, le savoir-être qui nous correspond ne peut pas être le savoir-être de quelqu'un d'autre, peu importe. C'est le savoir-être qui va chez nous. Je ne pourrais jamais changer une personne, je ne peux pas changer, je n'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, lui apprendre le métier, je pense qu'on peut. Donc... au début, on disait, oui, mais s'il n'a pas l'expérience, on va perdre du temps. Mais non, parce que perdre du temps avec quelqu'un qui n'a pas le même savoir-être, c'est pire. Donc aujourd'hui, autant perdre même 6 mois à lui apprendre le métier. Mais à partir du moment où il a notre savoir-être, ça se fait automatiquement.
Sylvie Pellegrini, vous parliez du respect, c'est une des valeurs qui vous anime, vous, mais aussi l'entreprise. Il y a d'autres valeurs que vous voudriez citer ?
Nous, c'est la bienveillance, et surtout, c'est le travail et l'épanouissement collectif. Moi, j'attache beaucoup d'importance aujourd'hui à l'épanouissement. Moi, ce que je veux, c'est qu'un salarié, quand il vienne, ça ne soit pas un labeur. Alors, je sais qu'on ne vient jamais, notamment pour ceux de l'atelier, je ne pense pas qu'ils viennent en chantant. Mais je ne les sens pas non plus...
Avec des pieds de plomb.
Ouais, pas du tout, au contraire. Et puis, on participe beaucoup. Moi, je leur fais livrer des fruits. Je leur propose des cours de sport entre midi et deux. J'ai instauré aussi des cours de yoga où on a fait une salle de sport. Alors, je ne dis pas que tout le monde participe. C'est un peu dur à dire aux personnes. Et surtout, le mélange entre les personnes des bureaux avec les personnes des ateliers. C'est compliqué. Souvent, ils n'osent pas trop. Alors, je leur dis, vous avez le droit aussi d'y aller. Il y a des vestiaires, il y a des douches. Donc, tout le monde peut y aller. C'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye d'instaurer un climat...
Un bien-être dans l'entreprise.
Un bien-être au travail pour pas que ça soit trop dur.
Un Rhône Éco, le magazine économique du Rhône et de l'Ain.
Sylvie Pellegrini, quelques chiffres clés du groupe Metalp ?
Alors, les chiffres clés du groupe Metalp, donc c'est 40 millions de chiffres d'affaires. On varie entre 130 et 150 personnes, toutes sociétés confondues. Notre clientèle, c'est aussi varié que les métiers et les entreprises. Donc, c'est surtout du B2B majoritairement, sauf Feugier qui peut travailler avec du particulier, puisque pour les barrières anti-inondation, on a sorti une nouvelle barrière qui est faite pour la maison individuelle. Donc voilà, Feugier est un petit peu à part de nous, mais et on travaille essentiellement pour du B2B. On n'est pas du tout pour de particulier. Les métiers qu'on rencontre chez nous, c'est essentiellement du bureau d'études, calculateur, dessinateur, du chargé d'affaires, commerciaux. Et puis après, on a du soudeur, menuisier alu, magasinier, métallier, mais aussi on a des achats. De l'administratif aussi dans chaque société malgré tout, puisqu'il nous faut des acheteuses et des personnes pour la facturation, parce qu'elle se fait dans chaque société. De la logistique, et puis après, on a tous les supports Metalp, comptabilité, RH, communication, oui. Juriste, QSE, et puis voilà.
Ouais, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ces différents métiers sont genrés ?
Non. Alors,
Il y a des techniciennes dans les ateliers.
Il y a des techniciennes et j'ai des techniciens. Quand on regarde sur les chargés d'affaires, par exemple chez KPC Charpente, il a une chargée d'affaires fille, qui d'ailleurs s'en sort mieux que les hommes, on va dire, et en aluminium aussi. On a une chargée d'affaires femme qui est très bien. Aujourd'hui, on essaye d'apporter un peu de féminité parce que nos directeurs, peut-être aussi avec mes rapports à moi et eux, à eux, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas si dur et que d'avoir des femmes un petit peu, ça apaisait un petit peu ce milieu d'hommes assez brut. Assez brut et assez... Et donc, finalement, tout le monde y trouve son confort d'avoir quelques femmes en production aussi. On a une femme en aluminium et on a une femme en magasinière.
On parlait du recrutement. Vous peinez à recruter ou le fait que ce soit une entreprise ou entreprises déjà bien établies avec une ambiance certaine, visiblement.
Je vais dire que quand j'allais au groupe femmes du bâtiment, souvent, elles me disaient toutes, oh là là, on s'envoie pour trouver du monde, ou alors elles avaient des soucis avec leurs salariés. Et c'est vrai que je me disais, mais j'ai de la chance finalement, parce que je crois que dans toutes les sociétés et avec tous les salariés qu'on a, je n'ai pas de réels soucis avec mes employés. J'ai pas un gros problème. C'est quand même facile. Après, on dit souvent qu'on attire ce qu'on est. Donc, je pense que voilà. Et puis, comme on a des personnes qui sont de la région, quand elles sont là, elles restent.
Aujourd'hui, fidèles.
Elles restent fidèles. On a très peu de turnover. Ce qu'on a en turnover, c'est des gens qui ont commencé très jeunes chez nous. Aujourd'hui, il faut se dire qu'on investit sur une personne pour 5-6 ans, pas plus, que demain, elle va changer. Elle va changer même de métier. C'est ce qu'on nous disait aussi sur les jeunes. Donc aujourd'hui, quand un jeune part, souvent il vient dans mon bureau, il me dit « mais je pars pas parce que je suis pas bien hein. ». Je pars parce que voilà, je veux changer, je veux autre chose. Récemment, j'ai un conducteur de travaux aussi qui est parti. Il m'a dit parce que je viens d'avoir des jumelles, ma femme a besoin que je sois à côté d'elle. Et il habitait Lyon et c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Parce qu'on a quand même pas mal de gens qui viennent de Lyon. C'est aussi pour ça que j'avais créé ces salles de sport et tout ça, pour qu'entre midi et deux, ils puissent faire leur sport, puisque c'est des gens qui restent ici.
Oui, parce qu'on rappelle, hein, c'est au pied de l'autoroute.
Ouais, c'est ça.
Mais et c'est à l'entrée de la Plastic Vallée.
Voilà, c'est à l'entrée de la Plastic Vallée, hein, c'est sur Port. Et donc, ils ont une heure de trajet matin et soir. Donc, s'ils repartent le soir à 18h, le temps de rentrer, 19h, voilà. Donc, c'est compliqué. Hein. Donc... aujourd'hui, moi, j'ai fait des aménagements aussi du temps de travail, donc qui leur permet d'aménager 10 heures dans la semaine comme ils le désirent. Donc, sur 39 heures, ils ont 29 heures imposées et les 10 autres heures, ils les font soit plus tôt le matin, soit plus tard le soir, soit entre midi et deux. C'est comme ils le désirent. Les ateliers, eux, finissent le vendredi midi. Donc ça aussi. Et puis chez Feugy Environnement, ils sont en train d'expérimenter la semaine à 4 jours. Alors pour eux, c'est plus facile parce qu'ils sont à 35 heures. Pour les autres sociétés qui sont à 39 heures, je pense que ça va être très compliqué.
1. Renéco, le questionnaire.
Sylvie Pellegrini, on ouvre le questionnaire de ce magazine 1 Rhône Éco. Quelle a été votre plus grosse difficulté et comment l'avez-vous surmontée ?
Alors, ma plus grosse difficulté, bah, ça a été le départ de mon frère. Hein. En 2019, il m'a annoncé qu'il voulait partir. C'était compliqué pour lui parce qu'il était en mauvaise passe et il y voyait plus d'intérêt de travailler dans la société. Et donc, en une semaine, il a fallu que je réfléchisse à savoir ce que moi, je voulais faire. Moi, j'avais déjà, en 2019, j'avais déjà 54 ans. Je me suis dit, te relancer dans quelque chose. Aujourd'hui, j'avais toujours travaillé pour la société. Moi, je suis venue vraiment travailler pour la société par envie. C'est pas, ça m'a pas été imposé.
C'est pas par loyauté.
C'est pas par loyauté avec mon père, familial. Pas du tout, ça a été. Et donc, je me suis dit, écoute, tu vas aller vite demander au directeur s'ils veulent travailler avec toi. Et à ce moment-là, tu vas voir si tu peux racheter la société. Donc, j'ai racheté les parts de mon frère en 2019. Donc, ça a été une période un peu compliquée. Puisque pour moi, il a fallu que je gère tout ça, parce que mon frère, du jour où il a décidé de partir, il est parti. Donc, je devais gérer sans avoir les responsabilités, puisque tant que je ne l'avais pas réglé, c'est normal, il pouvait pas... Donc, de 2019 à 2022, j'ai eu les pouvoirs comme une présidente, mais je n'avais pas le nom.
Le titre.
Le titre. Parce qu'il y avait toujours Arnaud par derrière. Et donc, en 2022, le 17 février 2022, nous avons soldé les affaires et mon frère est réellement parti donc, de la société.
Donc voilà, si, vous avez surmonté en achetant
ça, ça
les...
a été